Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 10 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports, le personnage de la semaine, et ce sera Shinzo Abe, ex-premier ministre japonais tué par balle vendredi dernier. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 10 juillet, le président et le premier ministre du Sri Lanka acceptent de démissionner après de violentes manifestations à Colombo. Davantage d'Australiens éligibles aux antiviraux pour traiter le Covid-19. Elena Rybakina bat 11 Jabeur lors de la finale des dames de Wimbledon. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a annoncé qu'il démissionnerait après que des manifestants ont pris d'assaut sa résidence officielle et d'autres ont incendié la maison du premier ministre. Ni le premier ministre ni le président ne se trouvaient dans les bâtiments en question. Rajapaksa quittera ses fonctions le mercredi 13 juillet et le premier ministre a également accepté de démissionner. Des centaines de milliers de personnes ont participé aux manifestations dans la capitale Colombo après des mois de protestations contre l'effondrement de l'économie. Comme Bastin, RFI.
Le plus grand trouble règne après ce nouveau pas franchi dans l'affrontement entre le président sri-lankais et sa population. Gotabaya Rajapaksa se trouverait à bord d'un navire de la marine. Un responsable militaire a déclaré que le président resterait en mer jusqu'à ce qu'il puisse retourner sur le continent en toute sécurité. Mais sur l'île, on tente déjà d'organiser l'après. Les établissements publics et les écoles sri-lankaises sont fermées. Le premier ministre Ranil Wickremesinghe a posé sa démission et appelé à une union de tous les partis pour assurer l'avenir de la gouvernance du pays. Il a demandé aux forces de sécurité et aux manifestants de faire preuve de retenue. Pour les responsables politiques, ces soubresauts ne doivent pas perturber le programme d'aide du Fonds monétaire international à destination du Sri Lanka, seul espoir du pays pour sortir de la crise. Mais la stabilité politique semble déjà compromise puisque le Premier ministre a vu sa résidence incendiée ce soir. Et pendant ce temps-là, des vidéos montrent des manifestants en colère qui nagent dans la piscine du président Rajapaksa.
La police japonaise a déclaré qu'il y avait des failles dans les mesures de sécurité pour l'ancien premier ministre Shinzo Abe, qui a été assassiné vendredi dernier dans la ville de Nara. La police n'a pas précisé quelles étaient ces failles, mais a promis une enquête. Un corbillard transportant le corps de M. Abe est arrivé chez lui à Tokyo, où des politiciens vêtus de noir se sont alignés pour lui rendre hommage. Les funérailles de Shinzo Abe auront lieu mardi prochain. Et sa mort va laisser un vide dans son parti libéral-démocrate. Analyse de Valérie Niquet, spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Elle est sur RFI.
Shinzo Abe n'était plus Premier ministre depuis déjà presque 2 ans. Et l'actuel Premier ministre Kishida, qui fait partie du même parti, avait plutôt vu l'adhésion à sa personnalité se renforcer. Et au contraire, l'aura de Shinzo Abe peut-être se réduire par rapport à ce qu'il était, la puissance qu'il avait lorsqu'il était Premier ministre. Ceci dit, il était resté à la tête d'une des factions les plus importantes du Parti libéral-démocrate. En fait, les principales rivalités politiques au Japon s'expriment au sein du parti qui est au pouvoir. Et donc, il joue un rôle très important dans les équilibres politiques internes au PLD et donc dans les orientations futures du gouvernement japonais. Mais ce qui est certain, c'est que le Premier ministre Kishida, qui est aujourd'hui en place, avait progressivement imposé sa propre marque et ses propres orientations, qui étaient d'ailleurs dans le prolongement beaucoup de celles initiées par Shinzo Abe. Donc, il ne devrait pas y avoir de bouleversement majeur dans les choix fondamentaux du Japon et du Parti libéral-démocrate.
En Australie, les médicaments antiviraux pour traiter le COVID-19 seront mis à la disposition des personnes de plus de 70 ans dans le cadre du Pharmaceutical Benefits Scheme à partir de demain, lundi 11 juillet. Le ministre de la Santé, Mark Butler, a déclaré que l'accès sera également étendu aux personnes de plus de 50 ans présentant deux facteurs de risque ou plus de maladies graves et aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres de plus de 30 ans présentant deux facteurs de risque ou plus. Mark Butler a déclaré sur l'ABC qu'une plus grande utilisation des antiviraux réduirait la pression sur les hôpitaux.
These are cheap medicines and they are very effective. They'll reduce the incidence of severe disease across the community and very importantly relieve that pressure we're now seeing build on our hospitals.
Ambulance Victoria a déclaré son 7e code rouge pour cette année avec le service submergé par la demande. La décision de déclarer un code rouge est intervenue juste avant 2h ce matin et a duré environ 90 minutes. Ambulance Victoria déclare que c'était le résultat d'une augmentation soudaine des appels juste avant minuit. La chef adjointe du Victoria, Jacinta Allen, déclare que les gens peuvent réduire la pression sur le système hospitalier en s'assurant qu'ils sont à jour avec leur vaccination contre la grippe et le COVID.
There's a whole bunch of us have now become eligible for that fourth dose. Please go and get vaccinated because it is a critically important way of supporting our healthcare workers, our paramedics, and supporting our health system, as well as keeping all of us and our family and loved ones safe and protected from the virus. No one wants to get this virus. It is unpleasant, but it also can cause serious illness and death. And one important way to mitigate against that is to keep up to date with vaccines and go and get the dose that you're eligible for.
Les personnes qui rentrent chez elles après les dernières inondations en Nouvelle-Galles du Sud sont averties de se préparer mentalement à ce à quoi elles seront confrontées. Quelques 37 000 personnes restent sous le coup d'ordre d'évacuation alors que le service d'urgence de l'État déclare qu'il s'efforce d'assouplir ses avis d'urgence. Le SES, State Emergency Service, indique que les résidents touchés par les inondations qui retournent dans leurs propriétés doivent porter des équipements de protection individuelle tels que des bottes et des gants. Écoutez le commissaire à la résilience et pour la protection en Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons.
The consecutive compounding effects of these disasters are having a real toll, not just materially on the damage and the destruction and the monies and the support that's needed, but obviously the emotional and psychological well-being of people is very real and very present, and that's certainly what we're hearing right throughout the region.
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a visité le seul réacteur nucléaire d'Australie à Lucas Heights, dans le sud de Sydney, où une nouvelle installation de gestion des déchets nucléaires est en cours de construction. Raphaël Grossi a évoqué le programme nucléaire du pays, y compris la fabrication de médicaments nucléaires, ainsi que son engagement en faveur de la non-prolifération. Il se dit également rassuré par ce qu'il a entendu au sujet de l'accord AUKUS qui verra l'Australie développer des sous-marins à propulsion nucléaire avec les États-Unis et le Royaume-Uni.
Australia has a fine and long tradition in terms of nuclear science, technology and it builds capacity. Everything you see here is a proof of that, and it is also building capacity at the level of the National Navy. To do that. So I don't have any doubt about the capacity of the country to handle it. None at all.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé l'ambassadeur de son pays en Allemagne ainsi que plusieurs autres diplomates de haut niveau. Dans un décret sans justification, le site internet présidentiel a annoncé le limogeage des ambassadeurs d'Ukraine en Allemagne, en Inde, en République tchèque, en Norvège et en Hongrie. Il n'est pas clair si les diplomates se verront attribuer d'autres emplois. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken exhorte la Chine à cesser de soutenir la Russie. Anthony Blinken et son homologue chinois Wang Yi ont tenu 5 heures de pourparlers lors du sommet du G20 en Indonésie. Anthony Blinken a déclaré que la Chine devait se joindre à de nombreuses autres nations du monde pour condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine.
More than 4 months now into this brutal invasion, The PRC is still standing by Russia. It's echoing Russian propaganda around the world. It's shielding Russia in international organizations. And even engaging in joint military exercises. We saw that just recently with the strategic bomber control in East Asia. So what I tried to convey to State Councilor is this really is a moment where we all have to stand up, as we heard country after country do in the G20.
En Grande-Bretagne, il y a pour le moment 8 candidats pour succéder Boris Johnson comme Premier ministre. Hier, de nouveau, se sont portés candidats. En plus de l'ex-ministre Savid Javid, il y a le nouveau ministre des Finances, Nadim Zahawi, et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Un mot de culture pour terminer avec le Festival d'Avignon et un marathon théâtral, Nid de cendres. C'est une pièce qui dure 13 heures, présentée ce dimanche. Muriel Mahalouf pour RFI et sur place.
Effectivement, il y a eu Le Soulier de Satin de Paul Claudel, mis en scène par Antoine Vitez, Le Mahabharata de Peter Brook, qui vient de nous quitter, ou plus récemment, la trilogie de Wajdi Mawad. Le jeune auteur et metteur en scène trentenaire, Simon Falguer, se lance à son tour dans un théâtre fleuve. Il présente en cette édition Nid de cendres, 13 heures de spectacle, conçu comme une série, riche en rebondissements et suspense. Il s'agit d'un monde brisé dont la moitié a brûlé. D'un côté se trouve une princesse, de l'autre un comédien orphelin. De leur rencontre naîtra un amour qui peut-être sauvera le monde. Le conte, la fable, le jeu des acteurs sont l'ADN de ce spectacle. Car Simon Falguer croit en la vertu de la poésie pour retrouver notre part d'humanité.
Deux moitiés, deux mondes qui se laissent flotter, espèrent une réunion magique.
Et on passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 18 degrés. Adélaïde, 15. Melbourne, 14. Hobart, 13. Canberra, 12. Sydney, 17. Brisbane, 20. Cairns, 25. Darwin, 29. Et à Alice Springs, un maximal de 18 degrés. Par rappel des grands titres de ce 10 juillet, le président et le premier ministre du Sri Lanka acceptent de démissionner après de violentes manifestations à Colombo. Davantage d'Australiens éligibles aux antiviraux pour traiter le Covid-19. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Tour de France, la 8e étape hier, Dole, Lausanne. Et c'est Wout van Aert qui l'a emporté devant l'Australien Michael Matthews. Et Pogacar, 3e de l'étape, garde le maillot jaune. Christophe Diremzian et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Deux victoires et deux jours en jaune chacun. Un troisième pour Pogacar demain. Les autres ont le droit aux miettes, et encore, c'est comme ça. Ils sont plus forts sur quasiment tous les terrains, ils ont faim, et rien ne semble les arrêter pour l'instant. Rien, sauf peut-être le virus, on l'avait oublié, celui-là, il est revenu par la porte du bus UAE. L'équipe de Pogacar, Vegard Steke-Langen, l'un des gardes du corps, façon de parler, du Slovène, a dû quitter la course ce matin, positif au Covid et forcément ça suscite beaucoup d'inquiétudes dans l'encadrement de la formation UAE. Le manager général Mauro Gianetti.
Je crois que tout le monde est inquiet, hein. Ça peut, il faut être attentif, hyper attentif et encore plus, quoi. Donc, on a vu même, en étant hyper attentif, ça arrivait. On a commencé la quarantaine, disons, l'isolation de tout le monde, soit coureur que staff, une semaine avant. On est ici avec chaque coureur dans une chambre individuelle. Chaque coureur, il a son soigneur. On a essayé de pas avoir d'interaction, de contamination entre les gens. Donc, ce matin, il est parti soit le coureur avec son soigneur avec, quoi.
Alors personne, bien sûr, ne souhaite voir Pogacar éliminé, entre guillemets, sur Covid, mais peut-il être battu à la régulière ?
Et pourquoi pas ? D'abord, les écarts sont encore assez minces. 39 secondes d'avance pour Pogacar sur son dauphin Vingegaard. Moins de 2 minutes sur une dizaine de concurrents. Et puis, on n'a pas encore attaqué les gros morceaux de montagne, les Alpes, les Pyrénées. Pogacar s'attend à être attaqué de toutes parts. Il peut aussi avoir un jour sans. Écoutez ce qu'en dit notre fil rouge cette année sur le Tour, Valentin Madouas, coéquipier du 5e du classement général, David Gaudu.
Il est pour l'instant le plus fort du Tour. Après, voilà, faut jamais oublier qu'on est au Tour de France et que les vérités de cette première semaine ne seront pas les vérités de dans 3 semaines. Donc, faut qu'on reste humble, nous, et qu'on puisse essayer de le battre dans la dernière semaine. Et je pense qu'actuellement, il est intouchable, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Ils annoncent des très grosses chaleurs, il peut se passer énormément de choses.
On passe au tennis. Le tournoi de Wimbledon, la finale des dames hier, remportée par Elena Rybakina, la Kazakh. Elle s'est imposée contre Ons Jabeur, la Tunisienne, en 3 manches, 3-6, 6-2, 6-2. On écoute la réaction d'Elena Rybakina tout de suite après le match.
I want to congratulate Ons for the great match and everything you achieved. It's amazing and I think you're inspiration not only for the young juniors but for everybody.
Et maintenant le déroulement de ce match avec Christophe Diremzian et Fabrice Abgral de Radio France.
Now to the runner-up, Ons Jabeur.
Elle salue le public, mais le sourire est à peine esquissé et la frustration visible lorsqu'elle s'avance vers Kate, la duchesse de Cambridge, qui lui remet le plateau de la finaliste de Wimbledon, car ce n'est pas le trophée qu'elle espérait. Ons Jabeur, la superbe quinzaine de la Tunisienne, a un goût d'inachevé, d'amertume sur le court central où elle a été battue en 3-7, 3-6, 6-2, 6-2 par la Kazakh et ancienne russe Elena Rybakina. Sa puissance de frappe et sa détermination ont eu raison de la numéro 2 mondiale, qui devra donc encore attendre avant de soulever son premier trophée du Grand Chelem. En tant que joueuse, qu'africaine et représentante du monde arabe, la ministre du bonheur, comme on la surnomme au pays, n'en délivrait pas beaucoup lors de son interview d'après-match à notre confrère de Radio France, Fabrice Abgral, mais elle est restée fair-play.
Ça fait partie du tennis et c'est le jeu. Il faut accepter de perdre et accepter de gagner. Voilà, je voulais ce titre tellement, mais je vais apprendre de cette finale. Je garde la tête très haute parce que la finale que j'ai faite, c'est, après tout, c'est incroyable. Pour moi, c'est la première fois. Beaucoup de choses qui sont passées la première fois dans ma carrière ici, demi-finale, finale. Donc voilà, et je vais continuer à travailler encore plus dur. J'ai une équipe merveilleuse avec moi et on va voir, on va trouver des solutions pour vraiment être Grand Slam champion, comme on dit.
C'était trop compliqué face à Rybakina aujourd'hui. Sa puissance, son agressivité, sa présence sur le court, elle est imposante en plus.
Oui, elle était très agressive, elle est rentrée dans le terrain, j'arrivais pas un peu à mettre la balle plus profonde pour un peu la déranger, mais voilà, je sais qu'elle joue bien, je sais, elle m'a pas donné beaucoup de cadeaux à la fin du deuxième, du troisième set, ça n'a pas trop aidé, en plus je trouvais que, voilà... j'ai tout essayé vraiment dans ce match-là d'avancer, de mettre un peu plus de la pression, mais it wasn't meant to be. Donc voilà, on va essayer d'encore voir ce qui s'est passé dans ce match-là et tirer les leçons.
Les Australiens Ebden et Purcell gagnent la finale du double messieurs en 5 manches contre les Croates Mektić et Pavic. Ce dimanche, l'Australien Nick Kyrgios jouera la finale contre Novak Djokovic, une première en grand chelem pour Nick Kyrgios, qui arrive en finale, qui s'est dit déçu de ne pas pouvoir jouer contre Nadal en demi-finale, mais il s'attend quand même à une belle performance contre Novak Djokovic ce soir.
You know, I saw some of the professionals walking around when I'd be a junior here, and I never thought that I'd be playing for the actual men's title. I feel like it's the pinnacle of of tennis. You know, once you are able to raise a Grand Slam trophy, that's like, I mean, kind of what else is there to achieve? So I never thought I'd be here, and it's just, I'm just super proud, and I'm just ready to go. You know, I'm going to give it my all, and we'll see what happens.
Un petit retour sur la demi-finale du Serbe contre le Britannique Cameron Norrie. C'était vendredi. Simon Bourtembourg pour RFI.
Sur le gazon londonien, l'ex numéro 1 mondial s'est logiquement défait du local du tournoi, Cameron Norrie. Malgré un début de match difficile et un premier set perdu, Djokovic n'est pas tombé dans le piège tendu par le Britannique, 12e mondial. Le Serbe a dû faire avec un court acquis à son adversaire.
I didn't start off well. He was the better player.
Je n'ai pas bien démarré la rencontre. Cameron Norrie était meilleur que moi en début de match. J'ai joué beaucoup de demi-finales dans un tournoi du Grand Chelem, mais ce n'est jamais facile quand on arrive sur un court de gérer la pression, les attentes des autres. Cameron Norrie n'avait rien à perdre, il joue le tournoi de sa vie. Ce n'est jamais évident de jouer à domicile, donc je le félicite. C'est un très bon joueur, j'ai beaucoup de respect pour lui.
Quelques résultats du rugby test match d'été de 2022 avec la France qui s'est imposée contre le Japon 20 à 15. La victoire étonnante de l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande 23 à 12. L'Angleterre s'est imposée contre l'Australie 25 à 17. Et le Pays de Galles a battu l'Afrique du Sud 13 à 12. On passe au foot. L'Euro de foot féminin se poursuit en Grande-Bretagne avec les Pays-Bas et la Suède qui ont fait match nul hier, un but partout. France-Italie, c'est ce dimanche, comme nous l'explique Tom Rossi pour RFI.
Rotherham Central. Quand on descend du train, la couleur ocre typique des anciennes villes industrielles anglaises domine le paysage. Les hautes cheminées nous surplombent. Pas grand monde en ville, mais quelques drapeaux nous rappellent bien qu'il y a l'Euro de football ici, dans cette cité de 100 000 habitants. Vous avez vu des supporters français ou italiens ?
Italian people.
Non, désolé.
You.
Yeah, I'm the first one.
Vous êtes le premier français.
Et avec le micro RFI à la main, difficile de passer inaperçu.
Yeah, RFI, yeah. Oui, bien sûr. Well, je suis sénégalais, donc.
Et quand Alain n'écoute pas RFI et Mondial Sport, il vend des lunettes de soleil et autres ballons sur ce marché. Il sait que Rotherham accueille des matchs, mais pas quelle équipe joue.
C'est l'équipe de France. Ouais.
L'équipe de France.
Ouais.
Donc ils ont contre quelle équipe?
Alors demain contre l'Italie.
Contre l'Italie.
Après ils vont jouer contre l'Islande et la Belgique. Il y aura un quart de finale aussi.
Un quart de finale.
Ouais.
Ah, ok, ouais, pas mal, hein. Pas mal, c'est trop bon. Oh là, ça c'est assez une bonne nouvelle quand même.
La CAN féminine se poursuit au Maroc avec l'équipe du Maroc a pris la première place du groupe A vendredi. Simon Bourtembourg. Pour RFI.
C'est le pays hôte, le Maroc, qui termine en tête. Les Lions de l'Atlas ont battu les Lions de la Teranga à l'occasion de la dernière journée. Les Sénégalaises étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale. Elles avaient donc décidé de faire tourner, elles qui doivent composer avec de nombreux cas de Covid. La courte défaite contre le Maroc, 1-0, pénalty de la meilleure buteuse du tournoi, Rizlan Chebak, n'a pas entamé la confiance des Lions de la Teranga. Écoutez l'attaquante Astou Gom qui évolue à Cherbourg en France.
On a tout fait, on a tout donné. Bon, après à la fin, on a perdu. Mais on a fait ce qu'on devait faire. On a tout donné. On a fait tourner l'équipe. Mais on était présents aujourd'hui. Ouais, ça va, on était présents. On avait réussi, on a fait un très 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 bon match. Ça va, on a fait un très bon match. Et à la fin, on a perdu et c'est ça l'espoir. Et on va se préparer pour nos quarts de finale.
Les Sénégalaises auront l'occasion de valider leur billet pour la Coupe du Monde si elles atteignent le dernier carré. Au Maroc, l'aventure CAN se termine pour le Burkina Faso qui a fait match nul 2-2 face à l'Ouganda. Les Burkinabés repartent de leur première Coupe d'Afrique des Nations avec un point et une précieuse expérience.
Le Ghana, et on parle des messieurs, se lance dans une course avant le mondial à Qatar. À nouveau, le reportage de Simon Bourtembourg pour RFI.
Course aux binationaux. Ils sont 5 à avoir dit oui aux Black Stars cette semaine, dont Inaki Williams, le joueur de Bilbao en Espagne. Si l'équipe ghanéenne se renforce sur le papier, ça n'est pas forcément du goût des anciennes gloires du pays, comme l'ancien capitaine Ibrahim Sundé, le ballon d'or africain 1971.
Avant, nous avons cherché d'avoir des joueurs ghanéens qui jouent en Europe, qui sont bons, mais ils ont refusé. Bon, maintenant qu'on a qualifié pour la Coupe du Monde, ces joueurs-là veut venir jouer pour le Ghana. C'est pas normal, c'est pas bon. Donc à mon avis, on garde les joueurs qui sont qualifiés, on les prépare bien et puis ils vont aller jouer la Coupe du Monde.
Le Ghana sera dans le groupe H au Qatar et débutera le mondial 2022-2023 le 28 novembre face au Sud-Coréen.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo.
Bonjour, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, vous allez revenir sur l'actualité qui a marqué cette fin de semaine au Japon, l'assassinat de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, tué par balle vendredi dernier.
Oui, c'est avec stupeur que le monde a appris ce vendredi 8 juillet la mort de Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon à l'âge de 67 ans. À la tête du pays de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020, il a été la cible de coups de feu lors d'un rassemblement de campagne pour les élections sénatoriales à Nara. Malgré les tentatives de réanimation, il est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital. Une mort qui a suscité l'émoi à l'international, mais surtout au Japon, où Shinzo Abe a assurément marqué l'histoire politique du pays. Et je vous propose de revenir sur sa vie.
Mais qui était donc Shinzo Abe ?
Shinzo Abe est né en 1954 à Nagato, au sud-ouest du Japon, et on peut dire qu'il était destiné à devenir un jour un visage majeur de la politique japonaise. Il grandit en effet dans une des familles les plus influentes du Japon, et son grand-père n'est autre que Nobusuke Kishi, lui-même ancien premier ministre du Japon de 1957 à 1960. Son père, Shintaro Abe, a lui aussi fait carrière en politique, ce qui a amené Shinzo Abe à grandir du côté de Tokyo, où il sera diplômé de sciences politiques, logique, en 1977, avant de quitter le Japon pour les États-Unis, où il poursuivra ses études. Il revient au Japon en 1979 et il va, dans les années suivantes, suivre les pas de son père en politique. Il devient son assistant au ministère des Affaires étrangères, puis à la présidence du Conseil général du Parti libéral-démocrate, et enfin au secrétariat général de ce même parti de droite conservatrice du pays. C'est après le décès de son père en 1991 que Shinzo Abe lance véritablement sa carrière en politique. En 1993, il est élu député, mais il faut attendre le début des années 2000 pour le voir accéder aux plus hautes fonctions du pays. Il est secrétaire général adjoint des cabinets des premiers ministres Yoshiro Mori de 2000 à 2001, puis de Junichiro Koizumi de 2001 à 2003. Il devient ensuite secrétaire général du Parti libéral-démocrate, puis intègre enfin le gouvernement en 2005 en tant que secrétaire général du cabinet. Un an plus tard, il est élu Premier ministre et succède à Junichiro Koizumi en 2006. Il est alors décrit comme un ministre conservateur, comme l'explique cet extrait du journal de France 3 lors de son élection.
Réputé pour son allure élégante, le nouveau Premier ministre est aussi un fervent adepte du retour aux valeurs traditionnelles du Japon.
Un beau pays est un pays qui accorde de la valeur à ses traditions, à sa culture, à sa nature et à son histoire. Un pays qui respecte la discipline et qui conserve son énergie pour construire l'avenir et jouer un rôle de leader dans le monde pour gagner la confiance et l'amour des autres nations.
Alors, son premier passage en tant que Premier ministre, il ne va pas durer. Si Shinzo Abe a une cote de popularité importante lorsqu'il est élu, devenant le plus jeune Premier ministre japonais de l'histoire, il va voir s'effondrer le soutien du peuple en une année. La faute à des scandales, à des affaires de corruption à répétition. En raison de cette impopularité et de soucis de santé, il démissionne de ses postes à la fois de président du Parti libéral-démocrate, puis de celui de Premier ministre le 25 septembre 2007.
Quel sera son parcours jusqu'au poste de Premier ministre japonais ?
Alors oui, il ne quitte jamais vraiment la politique entre ces périodes. Il est élu à la Chambre basse en 2009 et il va progressivement préparer son retour au poste de Premier ministre, motivé à l'idée de redresser l'économie du pays affecté par la crise mondiale de 2007. Il est d'abord réélu à la présidence du Parti libéral-démocrate, puis se place en favori pour les législatives de 2012. Il va finalement être réélu Premier ministre et c'est ce second mandat qui va vraiment asseoir sa notoriété à l'international, d'abord par son plan de relance économique pour le Japon nommé Abenomics, mais surtout par ses relations avec les autres pays. Shinzo Abe s'est toujours montré ferme envers la Corée du Nord, mais il a maintenu de bonnes relations avec les États-Unis, notamment avec l'ancien président Donald Trump. Il a renforcé la présence du Japon sur la scène internationale, malgré des relations avec la Corée du Sud et la Chine, qui sont restées, elles, davantage conflictuelles.
Mais il ne quitte pas la politique pour autant, et va même revenir à cette fonction en 2012. Comment s'organise son retour ?
Eh bien, malgré toutes les louanges adressées à Shinzo Abe après sa mort, il n'a pas toujours fait l'unanimité. Nationaliste conservateur, il a fait passer des lois qui ont été décriées au Japon, notamment celles sur le renforcement de la protection des secrets d'État ou encore le durcissement de la lutte antiterroriste. Ses volontés d'élargir les prérogatives des forces japonaises d'autodéfense avaient, elles, vu des milliers de Japonais manifester dans les rues. Plus récemment, il avait de nouveau été épinglé pour une affaire de corruption, en l'occurrence la falsification de documents dans le cadre d'une transaction immobilière avec sa femme Akie. Et puis, il avait été critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 que plus de 70% des Japonais jugeaient insatisfaisante.
Qu'est-ce qui va le pousser à quitter la fonction de Premier ministre en 2020 ?
Alors en septembre 2020, redevenu impopulaire et après avoir annoncé souffrir d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la rectocolite hémorragique, il avait démissionné de nouveau et c'est Fumio Kishida dont il a été le mentor qui l'a remplacé et qui occupe la fonction aujourd'hui. Encore une fois, Shinzo Abe n'avait pas entièrement quitté la politique, en témoigne sa présence ce vendredi à un meeting à Nara en soutien à un candidat de son parti, le Parti libéral-démocrate. Il y a donc été assassiné lors de sa prise de parole à l'âge de 67 ans. Le Japon perd ainsi son ex-premier ministre, celui qui avait passé le plus de temps dans ce costume dans l'histoire du pays.
Merci Léo d'être revenu sur l'histoire de Shinzo Abe, ex-premier ministre japonais. Une histoire dont on se souviendra sans doute pour très longtemps.
SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
On a le plaisir d'avoir Major Zulu. Bienvenue sur SBS en français à nouveau.
Ah oui, bonjour. Major Zulu ici. Je suis très bien d'être ici et parler avec vous aujourd'hui. Hein.
Bienvenue. Et on va parler aujourd'hui de votre nouvelle EP, The Do-It-Yourself Project called Life, sorti il y a quelques jours.
Ah oui, bien sûr, oui. C'est sorti déjà, hein, c'est disponible sur les plateformes streaming.
Et racontez-nous, vous partez à la découverte, je crois, de vous-même à travers des voyages, à travers la musique, c'est ça?
Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'était un... J'ai voyagé partout parce que mon père, il travaillait pour l'ambassade de Zambie. Alors là, même quand j'étais jeune, je travaillais, j'étais à Lomé, Los Angeles, Londres, Paris, Berlin, partout. Et là, moi, je trouve que c'est à Paris que vraiment, finalement, je m'ai trouvée. Hein? Et c'était jouer dans les petits endroits de jazz. de faire des concerts. Mais bien sûr, quand on voyage beaucoup, on est seul. Et là, pour moi, c'est la musique qui m'a permis de, comment on dit, de découvrir de différentes cultures. Et ça enregistrait mon son, quoi.
Parlez-nous des chansons que vous proposez sur ce nouvel EP.
Oh, moi, j'adore toutes les chansons, mais bien sûr, à ce moment, j'adore Changing et aussi My Personal Revolution. La chanson là, pour moi, My Personal Revolution, c'est vraiment une déclaration d'être moi-même, parce que quand je me trouvais, je voulais bien exprimer ça. Moi, un peu d'histoire, c'est mon père, il était dans l'armée zambienne, il était très strict. Et aussi, ce n'était pas permettre d'être trop émotionnel avant lui. La musique m'a permis de faire ça, de m'exprimer. Et Personal Revolution, c'était quelque chose, c'était bien dire « to be myself hein? », être moi-même. Alors, c'est pour ça que j'aime Personal Revolution. C'est comme « it's the song of my life », you know. C'est ça. Tout simplement. Changing, je l'ai écrit, c'était dans un petit endroit qui s'appelle Mojito, c'est à Champs-Élysées. Et là, je faisais beaucoup de fêtes. Et Changing, pour moi, c'était vraiment abandonner la lifestyle comme ça, hein, parce que là, après toutes les soirées, je buvais, j'étais avec le feu de folle, quoi. Et Changing, c'était OK, I have to grow up. C'était oui. Vraiment grandir et be more mature, you know. Mm-hmm. Il y a des autres, Broken, bien sûr, vous l'avez joué, c'était sorti, je crois, c'était décembre, Broken, oui. C'était un single. C'est là aussi, hein, dans le EP. Il y a aussi Trying Times qui était écrit originalement par Donny Hathaway. C'est là dans le EP. Et aussi, il y a quoi? Shine Your Love Lights. Oh, j'adore cette chanson. Oui. C'est un peu plus, on peut danser, hein, Shine Your Love Lights. C'est vraiment être libre. C'est être dans le moment. Pour moi aussi, beaucoup de chansons qui sont sur le EP, j'ai écrit à Paris. Et enregistré ici à Sydney. Alors, Shine Your Love Lights, pour moi, c'était un jour quand j'habitais à Jaurès, en Paris. Oui. Et à côté de moi, il y avait un parc, un parc de bout de chemin. Et j'étais un peu stressée. Et I opened the windows, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai vu le parc, les oiseaux et tout ça, you know, the trees, les arbres. Et c'est ça qui m'inspirait de vraiment considérer, to see, consider the birds in the air, you know, les oiseaux, ils ne sont pas stressés. Et pour moi, à ce moment, j'étais dans le moment, j'étais libre. Et cette chanson était inspirée par ça.
Tout à l'heure, vous aviez parlé de Paris, des concerts que vous aviez donnés à l'époque. Est-ce que vous avez eu la chance de repartir sur la capitale française depuis que les restrictions ont été soulevées?
Oh, pas encore. J'ai réservé un avion, mais après c'était annulé, it was cancelled. Maintenant, je pense que ce n'est pas une bonne idée hein, de faire peut-être un next year. Mais bien sûr, il faut aller jouer à Paris, quoi.
Absolument. Et si on fait un petit retour en arrière, en 2021, en novembre, il y a eu des concerts que vous aviez donnés pour le Sydney International Women's Jazz Festival.
Ah oui.
J'imagine que c'était une belle expérience, surtout après les lockdowns à cause de la pandémie.
Ah oui, écoutez, c'était vraiment quelque chose. Hein. Parce que les gens, ils étaient prêts de vraiment to have a good time. Mm-hmm. Et c'était complet, bien sûr. Et c'était plus que complet parce que les gens ont acheté les billets et ils ne pouvaient pas entrer. C'était comme ça, hein? Mais quand même, they squeezed
them. Sold out.
It was sold out, oui, c'est ça. Et aussi, j'ai un autre concert pour fêter la sortie de mon EP, bien sûr, cet samedi, le 9 juillet. Et là, c'est plus que complet. Il y a juste, je pense que 5 à 15 billets. C'est ça. So, il faut bien apprendre le billet. Hein.
Il faut faire vite. Alors, est-ce que vous avez les mêmes musiciens qui vous accompagnent en ce moment?
Ah oui, toujours. Comme je vous ai dit, les musiciens, pour moi, c'est très important pour le son. Oui. J'ai Gervais, il est français aussi, mais il vient d'Afrique, Abidjan, mm-hmm. et son fils, Yannick Kofi, ils jouent ensemble avec moi. C'est vraiment, it's very special, you know. J'ai aussi un autre un gars qui vient de Pakistan, half Australian. Oui. Alors c'est vraiment riche quand il joue, c'est un peu it's special, you know. Mm-hmm. C'est ça que je voulais, un son international, vraiment, les gens qui sont ouverts.
Et si on revient un petit peu en arrière pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas écouté le dernier podcast, racontez-nous mm-hmm. un petit peu votre enfance, parce que vous avez grandi en Zambie et puis à Londres, à Paris ouais. et les États-Unis. Et quand est-ce que vous avez appris le français, par exemple?
Ah oui, écoutez, j'ai perdu mon français, hein, mais c'est bien, c'est vraiment bien de parler aujourd'hui. ma mère, elle voulait que ses enfants parlent français quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, mais on allait à l'Alliance française. Ouais. J'ai appris le français là-bas. Et bien sûr, je suis grandie à Londres, Zambie mm-hmm. et Londres, après Londres. Mais vraiment, après en Londres, pour moi, I was tired, I was fed up, you know. J'en ai marre et après, je voulais... Je pensais, OK, où est-ce qu'il faut aller, hein?
en Europe. À Paris.
oui, je pensais, c'est a good idea, aller à Paris. Et bien sûr, j'ai parlé un peu français. C'était cool. Et j'ai déménagé, j'allais à Paris. Et après, mon français amélioré. C'était très, très bien. Parce que j'ai parlé en français tout le temps, hein. Ouais. Mais maintenant, je suis à Sydney, hein, je perds mon français. Mais c'était vraiment cool. C'était cool et je voulais faire du jazz. Et après, j'ai découvert beaucoup de jazz. Duc de Lombard, j'ai fait du jam là-bas. Même aux Trois Maillets. Hein.
À Paris.
Je faisais du jam là-bas, oui, à Paris. Et après, c'était Earth, Wind & Fire qui voulait que je joue avec eux. Oui. J'ai commencé à faire des tournages avec eux. J'ai juste ouvert acoustique. Et je faisais beaucoup de choses. Et, you know, people knew my name in Paris. Et c'est là que j'ai commencé petit à petit à faire des chansons, à écrire. J'étais vraiment inspirée par l'amour. Hein, parce que moi, je trouve à Paris, il y a beaucoup... On sent l'amour partout. C'est très belle, quoi.
Je vais souligner aussi que vous avez côtoyé... Amy Winehouse, Norah Jones, ah ouais. vous gardez de bons ouais. souvenirs, j'imagine.
Ah oui, écoutez, moi, je fais des jams avec Amy Winehouse avant qu'elle était connue. On ouais. faisait des jams à un bar à Londres qui s'appelle Troy Bar et aussi il y avait Ten Rooms. C'est ouais. un petit bar, mais il y a de gens de beaucoup de talent, beaucoup de talent. La même Prince, il venait là-bas quand il faisait des tournages pour juste jam, un jam. Et là, j'ai rencontré Amy Winehouse. Elle était un peu, comment on dit, shy, you know?
Ouais, parce que un peu timide.
Timide, c'est ça, oui. Parce que les gens qui étaient là, on the stage, c'était de grands chanteurs de gospel. Hein? Ouais. Il ne faut pas oser aller chanter avec elle, mais quand même, elle a essayé quelques fois, et moi aussi. Et après, c'était quand j'étais invitée de jouer à South by Southwest avec un différent projet, qu'elle était là aussi. Et après, elle était vraiment connue. Et bien, elle avait un album Back to Black. Hein? Et c'était après, on sait ce qui se passait, mais c'était vraiment, it was very special, oui.
Absolument.
De partager le stage avec elle, oui.
Et aussi avec Norah Jones.
Ah oui, oui, oui. C'était un festival, hein? Festival à Londres, en Angleterre même, oui.
On peut parler un petit peu de vos projets pour le reste de 2022. J'imagine que vous avez organisé des concerts pour présenter ce nouvel EP, The Do It Yourself Project Called Life.
Ah oui, bien sûr, je suis en train d'organiser de concerts à ce moment. I'm just preparing. Ouais. Et aussi, j'écris parce que je vais bien sûr sortir un autre EP après. at the end of the year, you know, la fin de l'année. Mais à ce moment, c'est juste jouer, faire des répétitions pour être prête. Oui.
Absolument. Et on espère que vous allez peut-être effectuer une tournée dans le Victoria et autour de l'Australie et on va pouvoir vous voir dans les quatre coins du pays, quoi.
Ah oui, bien sûr. Et moi, j'adore Melbourne. Je veux bien venir là-bas. Oui, it's in the plans, oui.
Major Zulu, toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes de SBS en français. Merci et bonne continuation à vous.
Ah oui, merci. Au revoir.
Merci.
Un rappel des grands titres de ce 10 juillet. Le président et le premier ministre du Sri Lanka acceptent de démissionner après de violentes manifestations à Colombo. Davantage d'Australiens éligibles aux antiviraux pour traiter le Covid-19. Tennis, Elena Rybakina bat Once Jabeur lors de la finale des dames de Wimbledon. Et c'est la fin de l'émission. Je vous laisse en compagnie de Dominique A, qui nous interprète Nouvelles du monde lointain. À mardi, à partir de 13h, belle journée.
Ils ont l'air d'être heureux, ces gens. Ils rient tout le temps. Leur visage semble n'être fait que pour l'écran. Ils causent de choses qu'on ne verra jamais ici. Ils ont des bouches qui parlent plus vite qu'il n'est permis.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.